Avec l'Iran. Jusqu'où Donald Trump est-il prêt à aller pour soutenir Israël? Le président américain a convoqué un conseil de sécurité nationale. La réunion est terminée. Selon le site Marine Traffic, un porte-avions américain, le Nimitz, se dirige vers le Moyen-Orient. Au cinquième jour de l'escalade entre Téhéran et Tel Aviv, Donald Trump hausse le ton, perd patience. Il dit savoir où se cache le guide suprême iranien, même s'il ne compte pas l'éliminer. Du moins, pas pour l'instant. Voilà ses mots. Il exhorte aussi l'Iran à capituler sans condition. Sur le terrain, l'Iran promet des frappes punitives contre Israël. Les sirènes d'alerte ont d'ailleurs retenti plusieurs fois sur le sol israélien. Mais Téhéran est affaibli. Le plus haut gradé de l'armée iranienne, Ali Chedmeni, a été éliminé dans une frappe nocturne. Côté européen, la France craint le chaos si le régime des Mollahs est anéanti par la guerre. En marge du G7, Emmanuel Macron a convoqué un conseil de défense à Paris à 16h ce mercredi, notamment pour discuter de la sécurité des ressortissants français dans la région. Le chancelier allemand Friedrich Merz, lui, estime qu'Israël fait le sale boulot pour nous tous face à un régime iranien terroriste, prêt peut-être à se doter de l'arme nucléaire. Voilà ses mots. En France, les discussions tardent au conclave sur les retraites après 3 mois de débat. La CFTC accuse le MEDEF de ne pas participer à l'effort financier et de refuser d'augmenter les cotisations. 2 syndicats, la CFTC et la CFDT, annoncent une ultime réunion le 23 juin prochain. Citroën demande l'immobilisation immédiate de toutes les voitures C3 et DS3 en Europe, celles encore équipées d'airbags Takata. Annonce après un deuxième accident mortel en France métropolitaine, une femme de 37 ans morte dans un accident sur l'autoroute le 11 juin à Reims. L'explosion de l'airbag a provoqué de graves blessures. Elle y a succombé. 441 000 véhicules sont concernés en Europe, dont 82 000 en France, en plus de celles qui étaient déjà immobilisées. Adieu Bernard, vous étiez notre légende, le plus grand de tous. Les mots de l'Olympique Lyonnais par communiqué pour annoncer la mort de Bernard Lacombe, ex-joueur, ancien entraîneur adjoint, ancien directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, passé aussi par Bordeaux. Nanar, comme le surnomment les supporters, avait 72 ans, hospitalisé depuis le mois de janvier. Le président de la 3F salue l'un des plus grands attaquants de l'histoire de notre football. Le grand rival de Lyon, l'AS Saint-Etienne, rend hommage à un grand monsieur d'un club voisin que l'on aime affronter. La météo, encore une belle journée ensoleillée demain après dissipation des bandes brouillard sur les bords de Manche. Risque d'averse sur le sud des Alpes en fin de journée et sur le relief corse. Les températures comptaient de 10 à 17 degrés au nord le matin, de 16 à 22 au sud. L'après-midi, vous aurez de 22 à 26 près de la Manche, de 27 à 32 degrés en moyenne, jusqu'à 35 près de la Méditerranée, la maximale pour Nîmes. Et puis les courses à Toulouse, les pronostics de Dominique Cordier. Le 3, le 2, le 12, le 10, le 11, le 6, l'As. Et l'outsider de RTL, c'est le 6, Generous Charm.
RTL, 24 heures d'info.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime.
La rediffusion.
Je revois bien cette scène, on ne peut pas l'oublier. On fait face à une scène de chaos, une femme semi-allongée sur un canapé, baignant dans son sang. Cette femme présentait des marques d'hématomes sur tout le corps, mais également des traces de mutilation sur le visage. Clairement, ce corps a été mutilé.
Bonjour. Des mensonges. Un gendarme qui fabrique de faux procès-verbaux, des scellés, détruits sans raison. L'affaire Bénédicte Belair recèle tous les ingrédients d'une enquête truquée, bâclée et scandaleuse. Au printemps 2017, le corps de cette femme, âgée de 55 ans, est découvert sans vie chez elle, dans une petite ville de l'Oise. C'est son compagnon qui a fait la macabre découverte alors qu'il rentrait de son travail. Les investigations sont rapides, la malheureuse avait trop bu, elle est tombée toute seule. Dossier clos, affaire classée, la justice ne va pas chercher à en savoir plus. La sœur de la victime ne va jamais accepter cette conclusion express en prenant connaissance du dossier, elle va avoir le sentiment que cette scène d'accident ressemble à s'y méprendre à une scène de crime. Sa sœur aurait été frappée à mort. A-t-elle succombé au coup de son conjoint écarté lors de l'enquête? Qui était dans la maison quand Bénédicte a rendu son dernier souffle? Question posée aux invités de l'heure du crime, la seule émission radio 100% fait divers. Bénédicte Belair, la vérité cachée, c'est tout de suite sur RTL. « Mardi 4 avril 2017, peu après 19h30, Marie-Hélène Belair appelle en urgence l'une de ses filles, Sylvaine Grévin. La voix de la maman est brisée. Elle lui apprend que sa sœur cadette, Bénédicte, vient d'être retrouvée morte chez elle à Pont-Sainte-Maxence, à une douzaine de kilomètres de Creil. C'est le compagnon de celle-ci, William, qui vient de la prévenir. Il n'a pas encore appelé les secours. Il dit que c'est horrible à voir et que le chien a bouffé Bénédicte. Sylvaine Grévin est sous le choc. Elle se rend tout de suite à Pont-Sainte-Maxence, devant le modeste pavillon de plein pied. Elle retrouve le compagnon, William. Il est assis sur un banc dans le jardinet. Il semble ailleurs, même si les gendarmes notent qu'il ne semble pas trop atteint par ce décès soudain. La famille ne sait rien de ce qui s'est passé. Peu auparavant, l'urgentiste du SAMU, le docteur Yameldine Alouache, a qualifié de choquante la scène qu'il a découverte dans le salon. Bénédicte Belair, 55 ans, est en partie dévêtue, pantalon abaissé jusqu'à mi-fesse, pull remonté. Elle est allongée de façon curieuse, en partie par terre, en partie sur le canapé. Elle porte de nombreuses lésions, pas moins d'une cinquantaine d'hématomes et une grave blessure à l'œil. Le médecin ne croit pas à une attaque du chien. Il parle d'une mutilation minutieuse et adroite. Selon lui, la mort est suspecte. Les gendarmes emmènent le compagnon, entendu à 2h du matin, en qualité de simple témoin. Audition qui ne dure qu'une heure. Seulement 7 questions posées. Le procès-verbal tient sur 2 pages. William, employé comme agent de maîtrise dans une société de transport basée à Louvres, explique qu'il est parti travailler à 7h30. Il est rentré à 19h30 et là, il a découvert Bénédicte morte. Quand on l'interroge sur la multitude d'ecchymoses relevées sur le corps de Bénédicte, William répond: c'est certainement quand elle tombait ou se cognait, quand elle était saoule. Selon lui, sa compagne buvait trop, fumait trop, ne faisait plus rien dans la maison. Les enquêteurs relâchent le compagnon. Il était au travail quand la victime est morte, il est mis hors de cause. Les analyses toxicologiques confirment que Bénédicte Belair était alcoolisée lors de son décès. Tous ceux qui connaissent Bénédicte Belair ne croient pas à l'accident. Xavier, son frère, décrit l'histoire mouvementée du couple qu'elle formait avec William. Ils étaient séparés depuis 2 ans, mais ils vivaient toujours sous le même toit. Depuis quelques années, leur relation s'était dégradée. Bénédicte Belair avait quitté son travail d'assistante de vie scolaire. Elle se réfugiait dans l'alcool, minée par la tristesse. Son entourage parle d'une femme malheureuse, maltraitée, battue. Sa mère, Marie-Hélène, confirme qu'elle était victime de violences physiques et psychologiques de la part de l'ex-compagnon. Elle disait qu'il l'enfermait. En 2012, William a été condamné à 3 mois de prison avec sursis pour violence sur Bénédicte. Il affirme être depuis rentré dans le rang. Il n'a jamais plus levé la main sur son ex. La famille remarque son absence lors des obsèques. 4 mois après le décès, le parquet de Senlis classe l'affaire. La thèse de l'accident, une chute, est retenue. Une chute donc, même si les photos et le témoignage du premier médecin arrivé sur les lieux, un urgentiste, certes, c'est pas un légiste, eh bien il ne penche pas vraiment pour un accident. On a vu tous ces coups distribués, cette cinquantaine d'ecchymoses, ça fait beaucoup pour une chute, j'ai envie de dire. Sylvaine Grévin, la sœur, ne veut pas en rester là, elle va se manifester, quitte à se heurter d'ailleurs frontalement à la gendarmerie et à la machine judiciaire. Évidemment, on va voir tout ça dans la suite de l'heure du crime. Bonjour Sylvaine Grévin.
Bonjour Jean-Alphonse.
Merci infiniment d'être avec nous dans l'heure du crime. Vous êtes la sœur de Bénédicte Belair et encore merci d'avoir accepté notre invitation parce que vous êtes au cœur de cette affaire et c'est grâce à vous, d'ailleurs il faut bien le souligner, que cette affaire n'est pas enterrée aujourd'hui et qu'elle continue et que les investigations se poursuivent à l'heure où nous parlons. Alors évidemment, Sylvaine Grévin, vous n'avez rien oublié de cette soirée du 4 avril 2017. Lorsque vous arrivez devant le pavillon où habite votre sœur avec son ex-compagnon, dans quel état d'esprit êtes-vous ? Évidemment, vous êtes très inquiète, mais à quoi vous pensez immédiatement ?
Écoutez, lorsque j'arrive, en fait, pour tout vous dire, j'étais en train de faire mes courses quand ma mère m'a appelée. Voilà, tout bêtement, mes courses alimentaires. Et sur le moment, en fait, quand vous recevez un appel comme ça, vous n'y croyez pas. Je me suis dit, non, mais bon, c'est pas possible. Comment elle doit être certainement encore vivante. Donc, la première des choses, effectivement, que j'ai faite, c'est aussi, moi, d'appeler la gendarmerie de mon côté, pendant que j'étais en route. Là, on n'a pas voulu me donner d'informations. Donc, je me suis rendue, bien sûr, sur place. Et sur place, en fait, j'avais toujours espoir, en fait, que Bénédicte soit encore vivante. Mon frère, donc, que j'ai retrouvé, Xavier, comment était sur place. Donc, on s'est retrouvés tous les deux complètement démunis, sans avoir véritablement d'informations. On nous a fait absolument aucune annonce. On a été, vraiment, je dirais, le mot n'est pas assez fort, maltraité. La seule personne qui est venue à nous, parce qu'on l'a approché d'ailleurs, mais il s'agit justement de Yamil Dinalouache que vous avez cité tout à l'heure.
Du médecin.
Le médecin urgentiste.
Le médecin urgentiste. Alors, quand vous allez prendre connaissance de l'autopsie, notamment, et des coups qui ont été distribués sur votre sœur, là, c'est très, très choquant ce que vous pouvez lire à ce moment-là.
Bah, non seulement c'est très choquant, mais je voudrais quand même juste rappeler c'est que 10 jours avant le décès de Bénédicte, elle avait, et ça c'est très important de le notifier, elle m'avait appelé pour m'informer qu'elle avait été à nouveau frappée de façon assez violente avec son ex-compagnon. Et à ce moment-là, moi-même, j'avais aussi appelé la gendarmerie pour qu'ils puissent intervenir. Des photographies d'ailleurs avaient même été prises de son visage à ce moment-là, puisque même elle portait des traces au visage. Et pour autant, les gendarmes de Pont-Sainte-Maxence sont repartis en laissant en lieu et place finalement la victime et son bourreau, j'ai envie de dire. Et donc, c'est vrai que moi, quand j'ai eu accès au dossier, c'est-à-dire après le classement, là, je me suis dit, mais c'est juste pas possible, en fait. Déjà, je me suis rendu compte que le dossier était littéralement bâclé, c'est-à-dire qu'il y avait des investigations minimales qui n'avaient même pas été produites. Il y avait très peu d'éléments. Et si vous voulez, là, je me suis quand même posé beaucoup de questions parce que ma sœur était une victime de violences conjugales avérées pour lesquelles son ex-compagnon avait déjà été condamné. 10 jours avant, on appelle la gendarmerie et ensuite 10 jours plus tard, ces mêmes gendarmes se retrouvent avec un corps qui présentait notamment sur l'autopsie non seulement les blessures que vous avez décrites, c'est-à-dire plus de 50 hématomes sur l'ensemble du corps. On saura également, puisqu'il y aura eu exhumation 3 ans plus tard, qu'elle avait au total 11 fractures de côte,
oui,
devant, derrière.
Et effectivement, voilà. on va avoir un bilan très très lourd et on va se poser beaucoup de questions. Et vous posez ces questions évidemment tout de suite, Sylvaine Grévin. Encore une fois, vous êtes là, vous comprenez pas du tout ce qui peut se passer et vous ne croyez pas du tout à une chute accidentelle. Bonjour Maître Célia Chauffret.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous également dans l'heure du crime. Vous êtes avocate au barreau de Paris et avec Maître Olivier Maurice, eh bien vous défendez les intérêts de la famille de Bénédicte Belair. Vous connaissez très bien ce dossier. Alors on va parler d'une chute tout de suite parce que l'enquête elle va très vite. Effectivement, on fait pas vraiment dans le détail. On dit tout de suite cette malheureuse est tombée. Mais sur quoi serait tombée Bénédicte pour se fracasser le crâne?
Alors, la première théorie qui est avancée est tout simplement la moins crédible de toutes les théories possibles. Il est soutenu que Bénédicte Belair serait tombée de manière spontanée, donc toute seule, sans intervention de personne, et sans que d'ailleurs il n'y ait véritablement de point d'impact qui soit identifié, puisque de fait on ne trouve pas, vous savez, quand il y a un choc comme ça violent, il peut y avoir, enfin logiquement, on peut trouver des traces sur un mur, sur la matière sur laquelle l'impact a eu lieu, ce qui n'est absolument pas le cas dans le domicile du couple où Bénédicte a été retrouvée.
Alors on en parlait avec Sylvaine Grévin à l'instant, Maître Célia Chauffret, William M, le compagnon, ou plutôt l'ex-compagnon, c'est un homme violent, et ça on le sait tout de suite, dès le début de l'enquête.
Alors on le sait d'autant plus qu'il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Senlis pour avoir violenté sa compagne Bénédicte. Donc c'est un fait qui est parfaitement connu des intervenants de police qui arrivent sur les lieux, qui, même s'ils n'ont pas eu à connaître de l'affaire antérieure ayant abouti à la condamnation du compagnon, bien évidemment, lorsqu'ils entendent le compagnon, lorsqu'ils tapent son nom dans leur fichier, il est bien évident que cette condamnation apparaît, enfin, ils en ont parfaitement connaissance.
La clôture de l'enquête, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est rapide, hein, c'est-à-dire que les gendarmes, tout de suite, c'est une chute, on n'en déroge pas, et voilà, le dossier est classé.
Alors, pour un dossier de cette nature, c'est extrêmement rapide. Voilà une femme dont on sait qu'elle était victime de violences conjugales, qui est retrouvée chez elle, décédée dans des conditions qui, lorsque l'on voit les photos de scènes de découverte du corps, enfin, les circonstances de son décès ne peuvent qu'interroger, auraient dû interroger, et dans ces conditions-là, un classement sans suite qui est ordonné quelques mois seulement après la découverte du corps, c'est, je dirais pas rapide, c'est stupéfiant, c'est à peine croyable, en réalité.
Une famille qui va tout faire pour relancer le dossier. Bénédicte Belair, la vérité cachée, il a dit que ma sœur avait chuté dans l'escalier, mais il n'y a pas d'escalier. L'enquête de l'heure du crime. On se retrouve dans un instant sur RTL.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime.
L'heure du crime consacrée à la mort suspecte de Bénédicte Belair. Cette femme, 55 ans, a été découverte sans vie chez elle dans l'Oise en avril 2017, couverte d'hématomes et de lésions. L'enquête a conclu à un accident. 8 mois plus tard, la famille veut faire rouvrir le dossier. Mercredi 15 novembre 2017, Sylvaine Grévin, sœur de Bénédicte Belair, dépose plainte contre X. Le compagnon, William, n'est pas nommé, mais c'est lui qui est visé. La sœur dit avoir été effarée en lisant les conclusions de l'autopsie. Une cinquantaine d'hématomes, des côtes fracturées, un coup violent à la tête qui a entraîné le décès. L'heure de la mort reste imprécise. Elle est située dans l'après-midi. Le compagnon affirme qu'il était au travail. Sylvaine Grévin remarque que l'emploi du temps de William n'a jamais été vérifié. Les gendarmes se sont contentés d'un simple coup de fil à l'employeur, lequel a confirmé que l'ex-compagnon était bien ce jour-là au planning. La téléphonie ne permet pas de confirmer que William était bien sur son lieu de travail durant toute la journée. Quant au téléphone de la victime, expertisé, il montre que Bénédicte se photographiait régulièrement en selfie, visage tuméfié, écorché, lunettes cassées. Aux enquêteurs, Sylvaine Belair raconte que le 25 mars 2017, 10 jours seulement avant le décès, Bénédicte l'a appelée au secours. Elle était frappée par son compagnon. Les gendarmes se sont alors déplacés jusqu'au pavillon de Pont-Sainte-Maxence. William a démenti toute violence. Il a indiqué que Bénédicte avait trop bu et qu'elle avait chuté dans l'escalier. La maison de plain-pied ne dispose pourtant d'aucun escalier. Aucun procès-verbal n'a été dressé après cette visite. Le lendemain, la victime ne s'est pas présentée à la gendarmerie pour effectuer sa déclaration. Elle aurait fait savoir qu'elle ne désirait plus porter plainte. Selon sa sœur, si Bénédicte a renoncé à déposer plainte, c'était par peur. Mardi 28 janvier 2020, 2 ans et demi après le décès de Bénédicte Belair, sa sœur demande une série de prélèvements biologiques dans les scellés. Ces pièces n'ont jusque-là jamais été expertisées. Un mois plus tard, la famille apprend que l'ensemble des scellés, à l'exception du téléphone portable de la victime, ont été détruits. Seulement 1 an et demi après la mort de Bénédicte Belair, c'est un gendarme de la brigade de Pont-Saint-Maxence qui a insisté pour obtenir cette destruction. Le procureur de Senlis, Jean-Baptiste Bladier, a finalement accepté la demande du gendarme. C'est une erreur dont je suis responsable. La disparition des scellés a enlisé un peu plus cette instruction déjà compliquée, va reconnaître plus tard le procureur dans le journal Le Monde. Le dossier révèle un autre mystère. Après avoir découvert le corps, William a appelé 2 gendarmes sur leur portable. Ce sont eux qui sont intervenus dans la maison. Mais comment avaient-ils leur numéro ? Une question qui s'ajoute donc à bien d'autres dans ce dossier qui abonde de mystères, de manquements, de lacunes, d'erreurs. On sent bien que tout le monde est embarrassé par ce décès qui pourtant ne devrait être qu'un simple accident, une chute mortelle. La famille va demander une exhumation, opération qui, on va le voir dans la suite de l'heure du crime, va changer beaucoup de choses parce qu'on va avoir une autre vision du dossier, ce dossier qui est normalement fermé. On ne veut pas avancer là-dessus. Alors, Sylvaine Grévin, vous êtes avec nous dans l'heure du crime. On vous retrouve, vous êtes la sœur de Bénédicte Belair. Je voudrais un mot là-dessus sur la fameuse soirée du 25 mars 2017 parce que moi, j'ai trouvé ça totalement incroyable et effrayant. On est là 10 jours seulement avant le décès de votre sœur. Et Bénédicte, elle vous appelle au secours.
Tout à fait. Donc en fait, Bénédicte m'appelle dans l'après-midi du 25 mars. Mm-hmm. Dans un premier temps, elle était. Je n'arrivais pas en fait à vraiment comprendre ce qu'elle me disait parce qu'elle pleurait beaucoup. Et je l'ai calmée. Et au bout d'un moment, elle me dit je ne peux plus sortir de la maison. Ils me séquestrent. Et là, elle m'a raconté. En fait, elle a tout déballé. Ma sœur était quelqu'un de très très pudique, comme d'ailleurs beaucoup de femmes victimes de violences conjugales. Mmh. Et là, en fait, elle s'est complètement livrée et on sentait qu'elle était complètement paniquée. Elle m'indiquait, mais tu sais, j'ai l'impression qu'il devient de plus en plus fou. Il m'a mis un coup de poing au visage, je suis tombée sur l'arrière de la tête. Et donc là, moi, mon sang n'a fait qu'un tour. C'est que, voilà, tout de suite, je lui ai dit, écoute, il va finir par te tuer, je vais venir te chercher. Et d'un seul coup, sa voix s'est figée. Et elle me dit, il arrive. C'est-à-dire que quand elle m'a appelée, bien sûr, elle était seule. Mmh. Et à ce moment-là, lui est arrivé. Donc, j'ai pris monsieur au téléphone. Et donc, bien sûr, voilà, il a traité ma sœur de tous les noms. Donc, moi, je lui ai dit, écoute, dans tous les cas, j'appelle immédiatement la gendarmerie. Ça peut plus durer comme ça. Il faut que tu arrêtes maintenant, ce que tu es en train de faire. Et donc, j'ai aussitôt appelé la gendarmerie. Donc, pour moi, si vous voulez, à partir du moment où j'avais appelé la gendarmerie, je suis restée en lien avec eux quasiment toute l'après-midi. Parce que malheureusement, j'ai pas pu venir tout de suite, moi, chercher ma sœur. Et en fait, quand je les ai, au bout d'un moment, ils m'ont appelé en me disant, est-ce que vous pouvez venir chercher votre sœur? Je lui ai dit, écoutez, il n'y a pas de souci. Et donc là, je rappelle ma sœur Bénédicte. Mmh. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu prépares ta valise? Elle me dit là, non, mais tu sais, je suis tellement fatiguée. Là, elle vient me chercher demain matin. Et ouais. Je ne comprenais pas trop. Et après, je n'ai pas voulu trop.
Bien sûr, pas insister, mais vous sentiez que peut-être. Insister. Voilà, peut-être qu'elle était sous surveillance, en quelque sorte, et que c'était un peu compliqué pour elle de donner suite à tout ça. Maître Célia Chauffret, on vous retrouve également dans l'heure du crime. Vous êtes avocate au barreau de Paris. Vous êtes avocate avec Maître Olivier Maurice de la famille de Bénédicte Belair. Alors, on sait qu'il y a eu effectivement des alertes. Hein, Sylviane Grévin, elle vient de nous en donner une importante. Le compagnon, l'ex-compagnon, il avait déjà aussi été condamné pour avoir frappé Bénédicte. Il avait écopé de 3 mois de prison avec sursis. On voit, quand on découvre son téléphone à Bénédicte, qu'elle se prend très souvent en selfie. Et son visage est très abîmé, il est couvert de coups. Pourquoi est-ce qu'elle se prenait en photo comme ça alors qu'elle n'osait pas aller porter plainte contre son compagnon ?
Alors vraisemblablement, il n'y a qu'une seule explication, puisque ce ne sont pas des photos, vous comprenez bien, où elle est à son avantage. Bien sûr. Ce ne sont certainement pas des photos qui immortalisent des souvenirs de bons moments. Donc la seule et unique raison pour laquelle Bénédicte avait pris vraisemblablement ces photos, c'était pour documenter les violences dont elle était la victime. Mmh. Et d'ailleurs, ce qui est singulier dans cette affaire, c'est que c'est Sylvaine Grévin qui a dû transmettre ces photos dans un des multiples actes qui ont été faits pour forcer l'institution judiciaire à regarder en face ce contexte de violence conjugale.
Oui, parce que sinon, on n'allait pas voir de ce côté-là, enfin, en tout cas naturellement, alors que ça s'imposait. Mais effectivement, dans cette affaire, c'est la partie civile, entre guillemets, qui fait tout et qui fait avancer le dossier. Maître Célia Chauffret, encore une question pour vous. L'emploi du temps du compagnon ou de l'ex-compagnon, William, il n'a jamais été vérifié. C'est exact, cette histoire ?
Ça dépend de ce qu'on appelle une vérification. J'ai envie de vous dire que, en l'occurrence, dans ce dossier, c'est presque comique ce qu'on a appelé vérification de l'emploi du temps. Au stade de l'enquête, on s'est contenté de demander à Monsieur William M. quel avait été son emploi du temps de la journée. Et on s'est contenté de solliciter auprès de son opérateur de téléphonie une fadette et on a pu voir qu'à la mi-journée, il aurait été proche de son lieu de travail, en tout cas son téléphone. Mmh. Et c'est sur la base de cette constatation qui est extrêmement sommaire. C'est totalement inhabituel, si vous voulez, de s'en tenir à une vérification aussi minime.
Ben oui, d'autant plus que là, effectivement, on est dans quelque chose de très dramatique et ça joue beaucoup, le téléphone, l'heure de la mort, tout ça, effectivement, tout ça est très fluctuant. Sylvaine Grévin, encore une question pour vous. Hein, vous êtes, je le rappelle, hein, vous êtes la sœur de Bénédicte Belair. Les scellés, ils sont détruits un an et demi après la mort de votre sœur. Et c'est un gendarme qui a insisté pour qu'on détruise ces scellés. Ça, c'est catastrophique, parce que les scellés en matière d'enquête, c'est primordial.
Ah mais terriblement, c'est-à-dire que la destruction des scellés, alors non seulement a été faite en toute illégalité, je rappelle que ces scellés ont été détruits dans le cadre d'une information judiciaire qui était instruite, c'est-à-dire instruite par un juge d'instruction. Mmh. Et donc, c'est en toute illégalité que le procureur Jean-Baptiste Bladier a finalement accordé, si je puis dire, la destruction de ces scellés. Dans ces scellés, vous aviez des traces de sang, c'est-à-dire dans le peu de choses qui ont été mises en œuvre, si vous voulez, dans les premiers instants de l'enquête, vous aviez un prélèvement sanguin dont on nous a dit qu'il s'agissait de sang humain, qui ne pourra jamais être analysé. Vous aviez les vêtements de Bénédicte qui étaient extrêmement importants, et notamment son Bermuda qu'on souhaitait aussi faire analyser. Et donc cette destruction, en fait, a emporté avec elle très certainement beaucoup de la réalité de ce qui s'est réellement passé. Si vous voulez, aujourd'hui, ça a impacté très directement l'enquête. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai assigné l'État par la suite. Hein.
Juste encore un petit mot, Sylvain Grévin, très court, mais je veux reposer cette question. Pourquoi on voudrait pas reconnaître ça comme un crime finalement? Pourquoi on s'accroche à la thèse de l'accident absolument? D'où ça vient?
Ça vient tout simplement, c'est que je pense qu'il y a des personnes qui sont protégées. Tout simplement, vous avez dans un premier temps un contexte de violence conjugale qui n'a pas été pris en compte par finalement les gendarmes qui se sont déplacés 10 jours avant. Et finalement, 10 jours plus tard, ils se retrouvent avec un corps sur les bras dans l'état où on le retrouve. Donc, si vous voulez, nous, ce qu'on pense, c'est que vous avez très probablement la hiérarchie, hein, de cette OPJ a fait en sorte, si vous voulez, que ça puisse être orienté vers la thèse accidentelle, parce que c'était le plus simple pour eux, pour se dépêtrer.
C'est ça, c'était effectivement le plus simple, on va au plus vite et au plus rapide, et parfois on se trompe évidemment. 3 ans après le décès, le corps va être exhumé. Bénédicte Belair, la vérité cachée, la lésion au sommet du crâne est plutôt en rapport avec un coup qu'avec une chute. L'enquête de l'heure du crime, une nouvelle autopsie, et si l'heure de la mort n'était pas la bonne. À suivre dans un court instant sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Lonely in this crowd, I sit alone. Oh, one more drink away from heading home. Oh, 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 I could feel the night slipping by. Oh, away from me. And oh, 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 she caught my eye through the light. She came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night. We could dance in the morning light. Let's forget about our worries and the wild world outside. She said, meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We could dance all night.
He took my hand and led me through the dark. Oh, he said, feel the beat, forget that broken heart.
Said, oh, hi, nice to meet you tonight. to meet you tonight. Maybe we could go, yes, get up off our feet. She said this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night.
L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Les rapports ont quand même montré des chocs à des endroits où il aurait fallu que ma belle-sœur tombe, rebondisse et retombe de l'autre côté pour pouvoir avoir des coups à plusieurs endroits, ce qui est quand même un petit peu particulier.
Retour dans l'heure du crime sur la mort douteuse de Bénédicte Belair dans l'Oise en 2017. Cette femme, 55 ans, aurait fait une chute chez elle. Ses proches la présente comme une femme battue, l'ex-compagnon soupçonné, enquête chaotique. 3 ans plus tard, une nouvelle autopsie est demandée. Mercredi 29 juillet 2020, la juge d'instruction demande que le corps de Bénédicte Belair soit exhumé du cimetière de Lanvéoc dans le Finistère. La famille n'est pas au courant, c'est la maman venue se recueillir sur la tombe de sa fille qui a découvert la tombe vide. Une nouvelle autopsie est effectuée, les deux légistes décrivent une multiplicité de lésions qui serait plutôt en faveur de coups, écrivent-ils, ajoutant « la lésion au vertex ». Le sommet du crâne est plutôt en rapport avec un coup qu'avec une chute. Quant aux fractures des côtes, indiquent les experts, elles témoignent d'une énergie cinétique importante. En clair, la victime a été poussée. Les médecins restent toutefois prudents. Ils n'excluent pas l'hypothèse de plusieurs chutes répétées qui pourraient avoir causé le drame. Le nouvel examen du corps permet aussi de réévaluer l'heure du décès. La plage horaire est considérablement élargie. Il ne peut pas être exclu que Bénédicte Belair soit morte au matin, alors que le compagnon était encore à la maison. Bénédicte n'a passé aucun coup de fil le mardi 4 avril au matin. Elle n'a pas répondu à un appel à 10 heures. La veille, à minuit, elle avait appelé un voisin et une amie, mais sans obtenir de réponse. Vendredi 11 mars 2022, à la demande de la famille Belair, la juge d'instruction est dessaisie du dossier. 2 nouveaux magistrats désignés. 10 janvier 2023, un peu plus de 5 ans après la mort de Bénédicte Belair, son ex-compagnon William est entendu par les juges. La victime avait confié à une amie qu'il avait l'habitude de l'agresser tôt le matin, avant de partir au travail. William est mis en examen pour violence volontaire, mais il est placé sous le statut de témoin assisté pour meurtre. Il est laissé libre. Et dans cette heure du crime, on retrouve tout de suite l'une de nos invitées, c'est Maître Célia Chauffret, avocate au barreau de Paris, avocate avec Maître Olivier Maurice de la famille de Bénédicte Belair. Alors, William, le compagnon, il est finalement mis en examen, je l'ai dit, pour violence volontaire, et puis il est placé sous statut de témoin assisté pour meurtre. Alors, témoin assisté, juste un mot là-dessus, Maître Célia Chauffret, qu'est-ce que ça signifie? Parce que parfois on s'y perd un peu, témoin assisté, on ne sait pas trop ce que ça veut dire.
On considère que les soupçons sont moins forts contre le témoin assisté que contre le mis en examen. La seule et unique raison pour laquelle on peut expliquer ce choix qui a été celui des magistrats instructeurs, c'est parce que cette procédure a connu de grandes difficultés dès l'origine. Et on le sait, on le voit fréquemment malheureusement, lorsque l'institution judiciaire emprunte une voie, elle a toujours énormément de mal à revenir sur ses prises de position antérieures.
C'est ce que disait d'ailleurs votre cliente, hein, Sylvaine Grévin. Elle dit qu'effectivement, on a du mal à reprendre le chemin, d'essayer d'élargir le regard pour voir s'il n'y a pas autre chose qu'un accident. Encore une question pour vous, Maître Célia Chauffret. Il y a l'autopsie. L'autopsie après l'exhumation, ça c'est très important parce que ça change beaucoup de choses. Alors, numéro un, c'est les légistes, ils évoquent, alors sans nuance, la possibilité de coups violents.
Alors, ce que cette deuxième autopsie permettra de mettre en relief, c'est que Bénédicte avait de très nombreuses fractures, et des fractures notamment sur les côtes, qui sont des fractures qui sont particulièrement typiques lorsqu'une personne est battue, lorsqu'une personne reçoit des coups. Donc, au vu des hématomes qui avaient été mis en exergue lors de la première autopsie et des fractures lors de la seconde, en effet, il n'y a pas tellement de doute sur le fait que Bénédicte, antérieurement à son décès, avait elle-même reçu un certain nombre de coups.
Oui. Oui, ça a eu beaucoup de coups, en fait. Hein. C'est ce que disent les légistes. Ils sont formels là-dessus. Effectivement, ils penchent plutôt pour une attaque, une agression, plutôt que pour une simple chute. Mais c'est important de le souligner. Sylvaine Grévin, vous êtes la sœur de Bénédicte Belair. Et encore merci d'être avec nous dans l'heure du crime. Alors, il y a autre chose dans l'autopsie qui est très important, c'est que l'heure du décès est remise en cause. J'explique très brièvement. On avait dit que votre sœur avait été tuée sans doute dans l'après-midi. Le compagnon était au travail. Et là, on s'aperçoit qu'elle a pu être tuée, en tout cas qu'elle a reçu des coups mortels le matin. C'est une possibilité.
Mais tout à fait, et c'est ce que moi j'ai tout de suite avancé avec ma famille, c'est que malheureusement William M était habitué à frapper ma sœur avant de partir au travail, et à tel point que des témoins ont été auditionnés en ce sens, qui révèlent même voilà des relations sexuelles non consenties, des agressions sexuelles répétées très tôt le matin. Et donc, si vous voulez, les violences pour moi ont commencé de toute façon très certainement la veille au soir. Je ne vois pas pourquoi Bénédicte aurait appelé à plus de minuit son voisin en face. Quel est l'intérêt d'appeler son voisin à minuit si ce n'est parce qu'on se trouve en danger? Elle a aussi tenté d'appeler sa meilleure amie qui a malheureusement cherché elle à l'appeler le matin sans succès, et pour cause, puisque Bénédicte malheureusement était déjà partie, était déjà morte. Donc effectivement ce changement en fait d'horaire est capital, et peut facilement aussi démontrer que monsieur était présent. D'ailleurs, lui-même le dit dans son audition, hein, il indique être parti de chez lui, en tout cas à 7h30 le
7h30,
matin. 7h30,
oui.
Et à 7h30, voilà. Donc on sait de toute...
Allez-y, pardon. Sylvaine, je vous en prie.
Oui, non, je dis en fait que, si vous voulez, le changement d'heure permet, en fait, d'avoir finalement des coups portés à quasiment 6h du matin. Donc ça peut être concordant, voilà.
Bien sûr, et ça c'est très très important, ça peut être concordant, et c'est capital dans une enquête. L'heure du décès, parfois l'heure du crime, ou même là, ici, peut-être l'heure de l'accident, en tout cas c'est ce que sont dit les enquêteurs, c'est extrêmement important. Encore un mot, Sylvaine Grévin, parce que c'est important. Quel rapport vous aviez, vous, avec William? Comment se comportait-il? Est-ce que lorsque vous disiez « tu fais du mal à ma sœur », vous lui avez peut-être dit en un moment donné, comment est-ce qu'il réagissait?
Alors en fait, au début, hein, quand ma sœur, parce que c'était une union qui a duré quand même plusieurs années, avec aussi de la séparation, mais avant, si vous voulez, que Bénédicte, puisque Bénédicte, je tiens quand même à le rappeler, a déposé 4 plaintes. Hein, voilà, sur les 4 plaintes, une seule a été consécutive, en tout cas, d'une condamnation pour monsieur. Et c'est vrai que monsieur, c'est quelqu'un de... C'est monsieur tout le monde, en fait. C'est monsieur tout le monde. Pour autant... moi, la dernière fois, bien sûr, que je l'ai eu, c'était au moment où ma sœur m'a appelé au téléphone. J'ai retrouvé une personne sarcastique qui insultait ma sœur en la traitant de loque, de merde. Et moi, si vous voulez, la réponse a été cinglante en disant, textuellement, je lui ai dit, si tu continues à frapper ma sœur, je te tue. Et j'appelle immédiatement la gendarmerie.
C'est ce que vous avez fait à de multiples reprises. Vous avez alerté les autorités sur cette attitude. 8 ans plus tard, rebondissement, un gendarme avait truqué l'enquête. Bénédicte Belair, la vérité cachée. Je n'ai jamais été interrogé par ce gendarme. Si tel était le cas, je m'en souviendrai. L'enquête de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
Au programme de l'heure du crime, la mort de Bénédicte Belair, 55 ans, dans l'Oise en 2017, une chute accidentelle selon l'enquête. En 2023, l'ex-compagnon, qui serait violent, est toutefois placé sous le statut de témoin assisté. Coup de théâtre, le dossier aurait été truqué. Un gendarme est mis en examen. Jeudi 16 janvier 2025, le gendarme de Pont-Sainte-Maxence, qui dirigeait l'enquête sur la mort de Bénédicte Belair, est mis en examen pour faux et placé sous contrôle judiciaire. 3 ans auparavant, les avocats de Sylvaine Grévin, maître Olivier Maurice et Célia Chauffret avaient déposé plainte contre cet officier désormais à la retraite. Ce dernier n'avait pas hésité à fabriquer de faux procès-verbaux d'audition, en premier lieu celui du médecin traitant de la victime. Sur ce PV bidon, le docteur déclarait qu'il n'avait pas noté que Bénédicte Belair était une femme battue. Le médecin n'a en fait jamais été entendu par les enquêteurs. Si tel était le cas, je m'en souviendrai, indique-t-il. Un deuxième faux procès-verbal a été fabriqué de toutes pièces, celui d'une amie de Bénédicte. Elle aussi disait tout ignorer de quelconque violence à l'encontre de sa copine. Elle aussi n'a jamais témoigné devant les gendarmes de Pont-Sainte-Maxence. Samedi 17 mai 2025, une autre plainte est déposée par la sœur de Bénédicte Belair contre un autre gendarme de l'Oise, accusé, lui, d'avoir été appelé par la victime pour une agression conjugale et de ne pas lui avoir porté secours. Cette plainte est classée. Sylvaine Grévin s'interroge sur les dysfonctionnements en série du dossier Belair. Scellé détruit, juge d'instruction dessaisi, gendarme mis en examen. Malgré ce désordre, le dossier ne bouge pas. L'ex-compagnon William est mis en examen depuis plus de 3 ans et nous n'avons aucune information sur ce qui va se passer, déplore la sœur. Et Sylvaine Grévin est avec nous aujourd'hui dans l'heure du crime, la sœur de Bénédicte Belair. Alors c'est vous finalement qui menez une enquête parallèle avec vos avocats bien sûr, mais voilà, c'est souvent le cas en matière criminelle et c'est pénible d'ailleurs parce que ça serait plutôt le job de la justice de faire tout ça, d'aller voir dans les PV si c'est vrai, si c'est faux, s'il y a des doutes. Comment est-ce que, Sylvaine Grévin, comment est-ce que vous avez appris que le gendarme, le chef d'enquête, c'est pas n'importe qui, le chef d'enquête avait fabriqué ses procès verbaux de toutes pièces?
Ah bah tout simplement parce que lorsque moi j'ai étudié le dossier en première instance, c'est-à-dire juste après le classement sans suite, j'ai passé du temps donc à vraiment détailler un petit peu comment les auditions qui avaient été faites, et je me suis aperçue qu'il n'y avait absolument aucune donnée médicale qui n'apparaissait dans le dossier. Donc j'ai trouvé ça quand même assez surprenant, d'autant plus que le directeur d'enquête indiquait avoir contacté le médecin de ma sœur. Donc je me suis rendue chez le médecin. Et là, contre toute attente, donc je lui indique, ma venue, je lui explique, et là il me dit mais j'ai jamais été entendue. Je dis comment ça, vous n'avez jamais été entendue? Il me dit écoutez, je pense que je m'en souviendrai. Et en tout état de cause, il dit pour preuve le dossier médical, moi je l'ai toujours. Donc il a fallu que moi, en tant que partie civile, je récupère l'intégralité du dossier médical de ma sœur pour l'annexer au dossier d'instruction, c'est-à-dire ce dossier médical montrait très clairement, d'ailleurs il y avait un certificat pour coups et blessures qui était aujourd'hui coté dans le dossier, qui datait de 2015, il y avait un certain nombre d'indications personnelles, notamment liées aux problèmes que rencontrait ma sœur et notamment ses problèmes de couple. Donc ce médecin, à ma demande, a été donc auditionné au même titre d'ailleurs que l'ami de ma sœur. C'est d'ailleurs cette amie que Bénédicte avait cherché à joindre la veille au soir, et elle l'avait eue 2 jours avant. Ouais. Elle était parfaitement au courant de ce qu'elle vivait. Et là aussi, ce gendarme a procédé en fait à finalement des faux procès-verbaux, tout simplement, pour, à mon avis, encore une fois, si vous voulez, il fallait se débarrasser de ce dossier.
Je vous suis là-dessus. Il fallait se débarrasser du dossier peut-être, mais là, vous savez, fabriquer des faux documents en matière publique, des faux documents publics, D'abord, c'est rarissime, il faut bien le dire, hein, les enquêtes, c'est rarissime de trouver des faux procès-verbaux dans une enquête, mais c'est gravissime. Alors vous dites, qu'on en reste à la thèse de la chute, mais est-ce que William, le compagnon, il est si puissant que ça pour qu'on veuille le protéger ?
Alors, si vous voulez, William, pour tout vous dire, c'est quelqu'un qui non seulement a été condamné pour des faits de violence conjugale à l'encontre de ma sœur, mais également pour de la détention de stupéfiants. Transport de stupéfiants. Mmh. Vous savez comment la ville de Pont-Sainte-Maxence, il fut un temps, une plateforme justement
du deal.
Du deal, exactement. Bon, c'est la question, en tout cas, que je me suis posée. Est-ce que, potentiellement, c'est pas quelqu'un qui a servi à un moment donné les enquêteurs ? Ça peut être une possibilité. Maintenant, il y a une autre aussi possibilité, c'est que, et ça, on s'en est rendu compte récemment, puisque suite à la mise en examen de l'adjudant dont vous parlez, il a quand même fini par parler. Et ce qu'il indique, en clair, c'est qu'il était soutenu par sa hiérarchie et qu'en gros, pour lui, c'est un accident. Et donc, en fait, il a bâclé. Pour moi, en fait, je pense que il y a les deux possibilités qui peuvent s'offrir. Soit effectivement, il y a une affaire là-dedans avec finalement quelqu'un qui était indique, tout simplement.
Ouais.
Ou alors,
on n'a pas envie de trop travailler et finalement il faut aller vite et il faut boucler cette enquête. Maître Célia Chauffret, avocate au barreau de Paris, avocate avec Maître Olivier Maurice de la famille de Bénédicte Belair. Il y a une autre plainte qui a été déposée par Sylvaine Grévin. C'est non-assistance à personne en péril sur un autre gendarme. Alors celle-là, elle n'a pas prospéré par contre de plainte. On a laissé tomber, pourquoi ?
On ne sait pas. En réalité, on ne sait pas et on est très étonné, si vous voulez, que cette plainte ait pu être classée parce qu'à notre sens, il y avait là tous les éléments qui permettaient de caractériser la non-assistance à personne en péril, puisque quand les gendarmes interviennent une semaine avant le décès de Bénédicte à la demande de Sylvaine Grévin, sa sœur, ils arrivent et Bénédicte Belair, elle porte une trace visible de coup sur le visage. Mmh. Donc, on ne peut pas comprendre comment des gendarmes ont pu passer à côté de ce qui était une situation de péril objective et ont pu s'abstenir de porter secours à Bénédicte Belair en faisant tout simplement leur travail.
8 ans après le drame, une première reconstitution. Bénédicte Belair, la vérité cachée. De toute façon, il finira par me tuer. L'enquête de l'heure du crime. Je vous retrouve tout de suite sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
C'est l'encre bleue, me dit que tu n'aimes que moi. Le rouge est rouge sang, couleur des amants, mais c'est le bouquet final, final, fatal. C'est toujours bien de finir en beauté. Y'a le nom impair, ruban satiné, sans vouloir jeter de fleurs. Y'a mes sentiments dont j'aimais t'aimer, et mon envie de te serrer, serrer.
crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, une mort suspecte, celle de Bénédicte Belair, 55 ans, en avril 2017, dans l'Oise. Une enquête malmenée et même truquée. L'ex-compagnon aurait en fait frappé cette femme jusqu'à la tuer. Il dément. 8 ans plus tard, la toute première reconstitution. Vendredi 23 mai 2025, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens ordonne une reconstitution de la mort de Bénédicte Belair. La juge s'était auparavant opposée à cette opération. Il s'agit de vérifier si dans le petit salon de la maison, une succession de chutes spontanées de la victime aurait pu entraîner la mort. Une modélisation en 3D de la découverte du corps est également souhaitée. C'est une avancée phénoménal, se réjouit Sylvaine Grévin. Lors de l'enquête, le précédent compagnon de Bénédicte Belair raconte que celle-ci l'a appelé peu avant le drame. Il n'avait pourtant plus de nouvelles d'elle depuis 20 ans. Elle avait évoqué avec lui la violence de William et prononcé cette phrase « De toute façon, il finira par me tuer ».
J'espère que la justice va enfin faire son travail correctement, aller au bout des choses et que la vérité va éclater dans cette affaire, pour la mémoire de Bénédicte.
Et c'est ce que tout le monde souhaite, enfin, que cette enquête ait une conclusion claire et limpide. Enquête qui n'a que trop duré. C'était la voix de Christian Perruti, ancien compagnon de Bénédicte Belair. C'était dans l'émission Un jour, un doc, diffusée sur M6. Maître Célia Chauffret, avocate à Paris, vous défendez avec Maître Olivier Maurice les intérêts de la famille de Bénédicte Belair. Alors, j'ai parlé de cette reconstitution, ou plutôt de la volonté de procéder à une reconstitution. Où est-ce qu'on en est de cet acte? Est-ce que vous avez plus d'informations?
Pas du tout. Cette décision de la Chambre d'instruction est très récente et nous n'avons pas encore à ce stade de date qui soit fixée.
Maître Chauffret, quels actes d'enquête, selon vous, il faut accomplir de manière un peu urgente, en tout cas prioritaire?
Alors, selon nous, on est un peu allé au bout du possible, si vous voulez, au niveau des preuves scientifiques. On est un petit peu embêté par cette destruction des scellés, c'est un euphémisme. Mais au vu de ce qui nous reste comme éléments de preuve, les éléments médico-légaux ont tous été exploités. Nous attendons encore le retour d'une expertise médico-légale, une expertise de synthèse. Et puis, pour le reste, nous estimons que l'ensemble des actes possibles ont été faits et qu'il va appartenir à la juridiction de tirer ensuite les conséquences de tout ce qui a pu être recueilli d'ores et déjà dans ce dossier.
Sylvaine Grévin, vous êtes avec nous dans l'heure du crime, sœur de Bénédicte Belair. Alors, cette enquête, pour vous, évidemment, elle est très pénible, elle est très longue, et c'est vous, en plus, qui portez le combat à bout de bras pour essayer d'avoir la vérité, parce que sinon, évidemment, ça serait classé depuis longtemps en simple accident, la mort de votre sœur. Il y a cette reconstitution qui va sans doute avoir lieu, puis peut-être qui va entraîner d'autres actes, et vous l'avez dit, ça, c'est une avancée phénoménale, c'est ce que vous avez déclaré dans les journaux, et effectivement, pour vous, c'est très important?
Oui, tout à fait, c'est très important parce que, si vous voulez, c'est quelque chose qui, en fait, depuis le départ, aurait déjà dû être initié, cet acte. Comment peut-on imaginer que cet acte-là n'ait pas été en tout cas ordonné depuis 8 ans? C'est quand même incroyable de se dire que 8 ans plus tard, on arrive enfin à quelque chose qui se fait de façon très ordinaire dans les dossiers, en tout cas ouverts pour meurtre. Donc ça, c'est vraiment très bien. Maintenant, moi, ce que j'attends, c'est aussi une mise sous pression de Monsieur William M. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que Monsieur William M. a été auditionné par le juge d'instruction, donc il y a maintenant presque 3 ans, sans vraiment de difficultés. C'est-à-dire que il n'a pas été poussé dans ses retranchements. Et ça, c'est quelque part un petit peu incroyable de se dire finalement, bon, on va pas chercher plus loin que ça. Au vu justement en plus des éléments. De la même manière, nous avons demandé une expertise psychiatrique, psychologique, psychiatrique, peu importe, ce qui nous a été refusé par ce même juge d'instruction, alors même que dans l'ensemble de ces dossiers-là, c'est systématiquement demandé.
Allez-y.
Pardon. Oui, en fait, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que la justice, enfin, vous le disiez juste avant, et mes conseils aussi, fassent leur travail, qu'ils fassent preuve de courage, que cette juridiction fasse preuve de courage. C'est tout ce qu'on leur demande.
Qu'est-ce qu'il raconte, l'ancien compagnon ? Depuis le début, il dit toujours la même chose. Je l'ai trouvé, moi, j'ai rien à voir là-dedans. C'est une chute, etc.
Sa stratégie, c'est ça, en fait. C'est, bah, moi, je l'ai trouvé comme ça. Elle est tombée. Le petit chien Max, l'a mordu. Alors que c'est un petit chien tout à fait domestiqué et qui, n'avait absolument pas. Enfin, c'était juste pas possible. Et donc, en fait, sa version est toujours la même. Mais en fait, c'est très laconique. Si vous voulez, même lors de son audition, cette audition aurait dû être poussée, mais beaucoup plus. C'est quelqu'un qui n'a jamais été mis en garde à vue. C'est-à-dire qu'il a été, vous l'avez dit en début d'émission, il a été entendu 2 heures après la mort de ma sœur, avec des questions totalement, vraiment, il n'y avait rien d'intrusif, si vous voulez. Alors qu'aujourd'hui, vous savez, moi, je travaille tous les jours dans le cadre de ma fédération, la FNVF, avec des policiers, des gendarmes, j'aurais pu, voyez, par exemple, typiquement être dégoûtée un petit peu de ces institutions-là avec tout ce qui s'est passé. Pour autant, je travaille avec des gens aujourd'hui qui sont formés, qui sont sérieux, qui font leur travail. Quand je parle un petit peu du dossier, ils n'en reviennent pas parce qu'ils savent comment se passe une garde à vue. Et c'est à ce moment-là que souvent les gens craquent aussi. Donc ce type-là, en fait, il n'a eu absolument aucune pression. Et aujourd'hui, il faudrait qu'il en ait un peu plus aussi, en plus de ce qu'on a déjà dans le dossier.
Dernière question pour vous, Sylvaine Grévin. Évidemment, vous menez ce combat pour votre sœur. Je suppose que vous pensez tous les jours à votre sœur, évidemment. Et il faut une vérité maintenant, il faut un procès.
Oui, si vous voulez, ce que je dis moi, bien sûr, je pense à ma sœur. On n'avait qu'un an d'écart. Et surtout, moi, ce que je voudrais, c'est que ma mère puisse voir le meurtrier de sa fille, incarcéré. Ma mère qui est âgée, est-ce qu'un jour elle verra, comme dans beaucoup malheureusement de familles, qui ont des dossiers compliqués, c'est les gens vieillissent. Et ce que je dis aussi aujourd'hui à la justice, c'est écoutez-nous, et